Transistor.
La culture domine tout.
Transistor.
Web.
L'immensité est en nous. Elle est attachée à une sorte d'expansion d'être que la vie réfrène, que la prudence arrête, mais qui reprend dans la solitude. Dès que nous sommes immobiles, nous sommes ailleurs. Nous rêvons dans un monde immense. L'immensité est le mouvement de l'homme immobile. L'immensité est un des caractères dynamiques de la rêverie tranquille. Ce rêve-là n'était pas vraiment subi. J'avais pris conscience, quelques jours auparavant, de la puissance matérielle, mais aussi modale du désir d'ailleurs qui avait pris possession de mes moments d'égarement. Je dis bien modale parce que ce n'était ni à la distance, ni à l'exotisme que je songeais. Maintenant, je peux le dire. Je coexistais avec une présence bien difficile à nommer, car je m'étais en fait engagé sur une ligne de fuite. Et mon départ n'était pas une affaire d'existence ou même de tangibilité, car il n'y avait, ici comme là, rien à saisir. Existence de cette présence qui serait désormais ma compagne de route. Mais nous savions bien qu'au fond c'était un emplacement qu'on construisait. Un lieu. Privilégié. Sacré. Et dans une certaine mesure, interdit. C'est une nuit, sur la route entre Donetsk et Rostov-sur-le-Don, que Paviel eut pour la première fois le sentiment qu'il appréhendait, éprouvait et peut-être même discernait. Chacun des aiguillages qu'il traversait. Lui et son convoi de 22 wagons. Chariant des tas de charbon à moitié congelés par le froid russo-sibérien. Après tout, un aiguillage n'en est qu'un, ne s'actualise que dans l'action ou l'inaction de ses leviers. Et cette nuit-là, les aspérités de la voix s'affranchirent, le temps d'un frisson microscopique. On ne sait où est le départ des deux hyperboles. L'hyperbole de l'œil trop voyant et l'hyperbole du paysage qui se voit confusément sous les lourdes paupières de ses eaux dormantes. Mais toute doctrine de l'imaginaire est obligatoirement une philosophie du trop. Toute image a un destin de grandissement. Chaos. Chaos. Chaos est sémantiquement voisin de son homophone chaos, d'où contamination. Tu laisses reposer ta tête contre la vitre et tu sens le chaos. D'autres chaos primitifs, plus abîmes que cavités. Et la terre ne cesse de trembler depuis que tu connais l'existence des micro-secousses. Cela fait maintenant quelques kilomètres que le marteau brise-glace te fait de l'œil. Les montagnes russes inversées ne roulent pas à l'envers. Les rails sont au-dessus du véhicule et les passagers les pieds dans le vide. Mais quelle infortune! Ton ennui est allé s'aplatir sur un axe nord-sud. Dans le mot vaste, la voyelle A conserve toutes ses vertus de vocalité agrandissante. Considéré vocalement, le mot vaste n'est plus simplement dimensionnel. Il reçoit comme une douce matière les puissances balsamiques du calme illimité. La nuit n'est pas exactement noire quand on arpente la coursive de ce train couchette. Je n'arriverai pas à voir bien plus que le reflet de ma propre figure, éclairé de la violence du néon au teint blafard. Et si le ciel tombait, il y aurait bien des alouettes prises. Et si j'avais été là-bas, j'aurais sans doute pris des trains bien différents. J'ai enregistré ma gouvernante Virginia, maintenant âgée de plus de 70 ans, qui évoque nos voyages en train. J'ai enregistré un ancien employé des wagons-lits sur la ligne New York-Los Angeles, maintenant à la retraite et âgé de plus de 80 ans. Monsieur Lawrence Davis qui raconte sa vie. J'ai rassemblé des enregistrements de survivants de l'Holocauste. Rachela, Paul et Rachel, tous d'à peu près mon âge et vivant aujourd'hui en Amérique, qui parlent de leurs expériences. J'ai rassemblé des sons enregistrés de trains américains et européens des années 1930-1940.
Je ne connais rien du Chili.
C'est quoi la Chine pour
c'est
vous
quoi la Chine?
Vous êtes déjà allé en Chine?
Vous êtes déjà allé en Chine?
Vous voulez aller en Chine?
Non.
Ça vous dit?
Ah, moi.
En las últimas cuatro semanas, todos los chilenos hemos vivido tiempos duros y difíciles que han golpeado el cuerpo y el alma de nuestra sociedad. En algunos casos no se respetaron los protocolos.
Paris, le 1er août 1900. Paul, mon ami, je viens de passer un fort beau dimanche en famille au bois de Boulogne. Nous avons pris le train de papa. Vous savez, le chemin de fer qui tourne autour de Paris. À 10h du matin, nous avons embarqué à Montrouge. Il fait si beau cet été que les arbres plantés des deux côtés des voies ne faisaient même pas d'ombre. Et 20 minutes après, nous étions à Vaugirard. Vous vous rendez compte? Le train passe à la hauteur du deuxième étage des maisons. Comme on n'allait pas très vite, il y avait des jeunes gens aux fenêtres qui en profitaient pour nous regarder, ma sœur et moi. Je ne leur ai pas fait signe. Je pensais à vous. D'ailleurs, ce que j'attendais, c'était de passer sur le viaduc au-dessus de la Seine. J'aurais bien aimé aller au bal à point du jour. Ce sera pour une autre fois. Avec vous, j'espère. Si l'on avait écouté papa, on serait descendu à Auteuil-Boulogne pour aller voir les courses de chevaux. Et comme maman aime les beaux quartiers, le voyage a duré encore une vingtaine de minutes. On a traversé Passy. On n'a pas été déçus. C'est beau! Un peu plus loin, à la station de l'avenue Henri Martin, nous sommes descendus pour aller vers le bois de Boulogne. Et juste après l'octroi, le Grand Lac attire tant de promeneurs qui vous font les 12 yeux et vous donnent envie d'être belle. Vous m'avez manqué, mais pas trop. Le bois m'a rendu gai. Je chantais comme une locomotive, à toute vapeur. J'attends votre lettre. Pauline.
Naissance de la petite ceinture, ou plutôt du chemin de fer de ceinture. Longeant les fortifications, la ligne doit relier les gares des compagnies de l'Ouest et de Rouen, du Nord et de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans. Ceinture. Ce nom rappelle à notre mémoire une chair disparue, la dernière muraille encerclant Paris.
Le train, c'est l'imaginaire du train dont on ne peut pas se passer. Le train, c'est l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. C'est le début d'une ère gouvernée par la technologie, la science, la vitesse. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le train, c'est l'espoir de la fin des campagnes isolées, les villes rendues soudain accessibles, 70 000 km de lignes en France avant la Première Guerre mondiale. Les projets de conquête de la nature, le rapprochement des espaces, la passion des locomotives à vapeur, des lignes à grande vitesse, des Shinkansen japonais. Le rêve du transsibérien, des trains couchettes et des distances infinies dans les plaines américaines. La France, particulièrement, est imprégnée de cet imaginaire, pays du TGV et des lignes locales. C'était avant le règne de la voiture, bien sûr, avant que l'on ne découvre qu'on pouvait également voyager seul. Mais le train conserve pour lui cet imaginaire. Les quais de gare sont le théâtre des meilleurs adieux, comme des plus grands points de départ. L'endroit depuis lequel on peut décider de tout quitter pour sauter dans un train. Mais le train, ce sont aussi des tragédies. La colonisation en marche, celle qui soumet les corps. La construction des lignes et l'esclavage. On pense à la ligne Congo-Océan, 511 km de ligne, construite par l'État français entre 1921 et 1934, au prix de la mort de 20 000 ouvriers africains. Mais aussi les lignes transaméricaines, qui sont passés aussi bien par l'exploitation des ouvriers que par l'extermination ou le déplacement des populations locales. Le train, c'est la civilisation, quel qu'en soit le prix.
La légende du Far West. Avec sa dure loi du plus fort, ce jour-là s'achève la construction de la plus grande ligne de chemin de fer des États-Unis, la toute première transcontinentale américaine, qui relie donc l'Atlantique au Pacifique. Vous imaginez ça ? Un véritable exploit technique. Près de 20 000 hommes ont travaillé avec acharnement à la construction de ce chemin de fer. Une grande partie de la population ouvrière engagée dans cette aventure ayant même fini par y sacrifier sa vie. Il a fallu braver un froid glacial, celui des montagnes de la Sierra Nevada. Il a fallu enjamber des canyons et des gouffres immenses, laisser derrière soi des hommes morts et continuer coûte que coûte, tout a souvent laissé croire que cette ligne de chemin de fer ne verrait jamais le jour. La construction de ce transcontinental américain, c'est une épopée, que voulez-vous ? Une épopée qui a commencé 6 ans plus tôt, en 1860.
Cette question maintenant, la justice peut-elle trancher l'histoire ? L'interrogation n'est pas nouvelle, mais elle ressurgit après une plainte contre l'État déposée par le Conseil représentatif des associations noires. Elle concerne un immense chantier des années 20, la construction d'une ligne de chemin de fer traversant le Congo, la fameuse ligne Congo-Océan. Il y aurait eu recours au travail forcé. Alors peut-on juger presque 100 ans après les faits, ou bien y a-t-il un risque d'anachronisme ? Jérôme Bonny, Jean-Jacques Le Garec.
C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan et réalisé
un chantier gigantesque, sans précédent au Congo, avec 100 000 ouvriers congolais ou amenés d'autres colonies françaises, pour la construction d'une voie ferrée de 610 km reliant Brazzaville à l'océan. Mais ce qu'oublient les actualités Gaumont en 1934, c'est que cette grande œuvre coloniale a sa part d'ombre. Tous les ouvriers du chantier sont des travailleurs forcés. Les 13 années de construction de la ligne ont coûté la vie à 17 000 d'entre eux.
Eucalyptus, de la famille des myrtacées. Origine, Australie. Utilisation en papeterie. Caractéristiques. L'eucalyptus assèche le sol dans lequel il grandit et empêche les autres plantes de pousser. Il est aussi appelé gommier du fait de la gomme rouge qui colle de son écorce lorsqu'il est blessé. Le rythme régulier du vieux train sur les rails ralentit doucement les battements de son cœur. L'arbre sent les frissons de ses branches saperées et caresse son écorce asséchée par les flammes. Il a fui cette nuit la fureur de l'incendie. Il a pris le dernier train, s'est enfui loin des cendres. Le bois qu'il a vu naître n'est plus qu'un amas de braises qui rougeoie tristement de l'autre côté de la fenêtre. L'eucalyptus est assis en troisième classe. Il a accepté le dernier ticket qu'il restait. Il parcourt de ses yeux fatigués les voyageurs endormis qui affalaient dans les sièges, rêvent d'un wagon-lit. Ça y est, il est parti. Il n'y a plus rien à faire. Le train est en marche et son pays, lui, est derrière. Sa région natale, l'Araucanie, rongée par les brasiers géants, il l'a perdue à tout jamais. Il le sait, à partir du moment où il a posé sa première racine sur le quai de la gare, il sait que ses feuilles d'argent jamais plus ne verront ses collines et ses volcans. Il a pris le train qui s'élance vers le nord, a préféré les rails à la panaméricaine, pour éviter de voir les cadavres des arbres morts couchés sur des camions énormes, ces camions qui avalent les kilomètres de route et d'asphalte pur, dans un vacarme tonitruant. L'eucalyptus préfère la solitude du train, avançant tranquillement sur un chemin qui lui est sien. Personne à croiser dans cette nuit profonde, ni d'ennemis à éviter. Ne demeurent que des ombres qui défilent derrière la vitre, des fantômes de paysages qui font tout oublier, et la tristesse du départ et le partiel désespoir d'un foyer abandonné. L'eucalyptus ferme alors ses paupières et se laisse bercer par le rythme maternel du train de nuit. Il se prend à rêver des jours qu'il a vécus, de son quotidien agité, de ses jours verts, de ses jours gris, de sa forêt endormie, de sa forêt endolorie. La forêt avachie divague et s'ennuie ferme. Un été précoce a fait flamber toute l'écorce. Véloce, en une nuit, il a tout détruit. Et sa flamme bleue, à l'aube, s'est éteinte dans les cieux. La forêt se souvient des broussailles et des pins, brûlés, dévorés, arrachés, engloutis, au bruit des sanglots des enfants et des femmes qui ont fui les rougeurs de cette colère diaphane. Et derrière, les troncs terrifiés par le son du rire vengeur du glorieux pyromane qui danse dans la cendre et sur le brasier de trop allume une cierge en hommage à la terre reine. Les costas sont des tombeaux, ruisselant de sève morte, la terre s'ouvre les veines et couvre de ses pleurs les crimes de la sorte. Les eucalyptus craintifs tremblent dans le vent, sur la colline vétuste, alignés sagement. Ils attendent le jour, la hache et les machines, les pics ensanglantés de boue et de résine. Calme parmi le chaos et insensible aux sirènes des guerriers pompiers, il y avait dans cette forêt un jeune arbre duveteux, encore vert et encore ténueux. Il passait ses journées à rêver d'une terre qu'on nommait Walmapu. Il a entendu ce nom murmuré par les branches. C'est vrai, il se souvient de ces rumeurs étranges à propos d'une vallée couverte de rosée où se love comme le caïcaï des fleuves indomptés. On lui a dit il y a longtemps qu'un pays vieux et vaillant accueillait en son sein une forêt éternelle, où les arbres sont si hauts qu'ils font ployer les nuages au rythme percutant du Kultrun Mapuche. Il paraît que les bois n'y meurent jamais vraiment, mais renaissent chaque année dans l'humus encore tendre. Si parfois la fureur du ciel et des volcans les dévore de tout feu et s'empare de leurs feuilles, ils n'en reviennent que plus forts, Néouen les aidant. L'eucalyptus regrette ce temps jamais vécu. Il se déclare vaincu par la vie d'Afouyente et rougit de ses racines jamais enracinées. S'il n'est pas d'ici et que la terre ne lui offre que la chaleur des flammes et les machines des hommes, s'il ne peut pas se rendre en Walma pour rêver, car c'est une terre pour laquelle il faut lutter et que le combat est arboré par d'autres cœurs que le sien, alors où ira-t-il le jeune eucalyptus ? Rejoindre une grande île, loin dans le Pacifique, dont il ne connaît ni l'odeur, ni l'apparence, ni la musique ? De l'étrange incertitude qui s'est nichée dans ses branches, l'eucalyptus se garde une seule volonté. Elle est tapie dans les feuilles, inébranlable désir. Oui, c'est décidé, il va prendre le train qui trace dans le monde la courbe d'un sourire.
Le Transandino était un chemin de fer reliant Mendoza en Argentine à Valparaiso, au Chili. Projet lancé en 1874, la ligne fut mise en service en 1910. Le train traversait les Andes par un tunnel long de 5 km à une altitude de 3140 mètres. Non loin du sommet de l'Aconcagua, le chemin de fer atteignait les 3750 mètres d'altitude. Chemin de fer transcontinental à la plus haute altitude du monde. La ligne a été fermée aux voyageurs en 1978, puis a cessé toute activité en 1982, laissant derrière elle des fantômes de trains à vapeur, des idées poussiéreuses de conquête des cimes.